Laudetur Jesus Christus.
Réunion de crise en Europe après le naufrage au large de Calais. Hier, 31 migrants ont perdu la vie tentant de joindre la Grande-Bretagne. Dans une demi-heure, les glaces des églises du nord de la France retentiront en hommage. Une réunion entre pays européens aura lieu dimanche à Calais. La crise humanitaire toujours plus délétère en Afghanistan. Les fonds de la banque centrale sont gelés, les hôpitaux incapables de fonctionner. Reportage à Kaboul dans quelques minutes. Le président Emmanuel Macron est bien arrivé à Rome. Il rencontre en ce moment même le président italien Sergio Mattarella. Et avant sa rencontre demain matin avec le pape François, le président français signera vendredi matin avec le chef du gouvernement italien Mario Draghi le traité du Quirinal, relançant la coopération transalpine. Éclairage historique à suivre.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonsoir. Le naufrage hier de 31 migrants dans la Manche, au cœur des attentions diplomatiques et humanitaires ce jeudi. Paris et Londres veulent intensifier les efforts conjoints pour lutter contre les gangs de passeurs. La France invite d'ailleurs ses partenaires européens à une réunion inédite ce dimanche à Calais pour en discuter. Ce naufrage hier est en effet sans doute le pire accident impliquant des migrants essayant de passer en Grande-Bretagne, ont annoncé dans la soirée de mercredi les autorités. Nicolas Posner est coordinateur au sein de l'association Utopia 56 qui se mobilise depuis 2015 à Calais. Il nous partage l'état d'esprit des bénévoles au lendemain du drame. Des bénévoles qui demandent toujours à ce que l'État français mette en place des routes de passage sûres et légales pour les migrants.
Dans un premier temps, c'est évidemment la tristesse de voir une situation dont on savait qu'elle pouvait arriver et qu'elle allait arriver. Puis dans un deuxième temps, c'est évidemment la colère de ces politiques de migration qui poussent les personnes à prendre tant de risques. Des personnes qui, encore une fois, n'ont rien et qui ont pour seul espoir, finalement, de pouvoir construire une vie, quoi, sur le long terme. On voit les images qui remontent de nos équipes et, en fait, le travail des bénévoles sur le terrain continue. C'est-à-dire qu'il y a eu des tentatives de traverser cette nuit aussi, des personnes naufragées ce matin. Et donc, voilà, le travail est d'être auprès de ces personnes. Et évidemment, avec, disons, musique de fond, cette pression sur ce qui s'est passé par rapport à hier. Aujourd'hui, ce que nous, on demande, c'est ce qu'on demande depuis toujours. Pour mettre fin à la fois au réseau de passage, pour mettre fin aux morts dans la Manche et pour mettre fin au campement, la seule solution, c'est de mettre en place des routes de passage sûres et légales. Donc, on continue à militer pour ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'instrumentalisation politique tourne à faire passer toute la responsabilité sur les passeurs, alors que l'État français, comme l'Union européenne et l'État anglais, a toute la responsabilité.
Des propos recueillis par Claire Riobé. Et puis sachez que les églises des diocèses du nord de la France ont été invitées à faire sonner le glas ce soir à 18h30. Les évêques français des diocèses du nord expriment aujourd'hui dans un communiqué leur profonde émotion et indignation. Qu'avons-nous fait de nos frères? Questionnent d'une seule voix les évêques d'Arras, de Cambrai et de Lille. Une prière aura également lieu dans la zone portuaire de Dunkerque demain à 17h. Toujours dans le nord de la France, demain, les pêcheurs annoncent une journée de blocage des ports et du tunnel sous la Manche pour les marchandises. Une action présentée comme un coup de semonce pour exiger l'octroi rapide de licences de pêche post-Brexit. Un mot du Covid, le premier vaccin pour les enfants de 5 à 11 ans a été approuvé dans l'Union européenne ce jeudi. C'était déjà le cas aux États-Unis, en Israël et au Canada. Les enfants de 5 à 11 ans qui le souhaitent recevront un tiers de la dose utilisée pour les personnes plus âgées en deux injections espacées de 3 semaines, explique le régulateur européen. Des milliers de manifestants dans les rues soudanaises ce jeudi. Ils s'élevaient contre le régime militaire au pouvoir depuis le putsch du 25 octobre, malgré la réinstallation récente du premier ministre civil. Une partie de la population dit ne pas vouloir d'un premier ministre qui est, selon elle, complètement inféodé aux généraux, dont la répression depuis le coup d'État a déjà fait 42 morts. L'Afghanistan sous le poids d'une crise humanitaire désastreuse. Les fonds de la banque centrale du pays sont gelés, les hôpitaux ne parviennent pas à fonctionner et des millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë. Un tableau sombre que nous confirme notre correspondante sur place, Inès Gilles. Son reportage depuis Kaboul.
Devant une boulangerie, une femme en burqa est assise sur le trottoir. Elle tend la main au client de passage pour récupérer un bout de pain.
On est pauvre, on n'a rien. Chez moi, je n'ai pas de farine, d'huile et de riz. La situation s'est empirée.
Depuis 3 mois, les sanctions internationales imposées après l'arrivée des talibans au pouvoir ont plongé le pays dans une crise gravissime. À l'hôpital Atatürk de Kaboul, des petits corps maigres sont installés dans des lits à baldaquins. Le ventre d'Ali, 7 mois, est gonflé. Il a été pris en charge il y a une semaine dans un état de malnutrition extrême. Ils sont une douzaine de bébés dans ce service spécialisé dans la malnutrition. La situation est critique selon Atifa Chapour qui travaille comme médecin.
Le nombre de patients a augmenté. Nous souffrons de pénurie de lait ou de médicaments à l'hôpital et la plupart des familles n'ont pas les moyens de les acheter.
Aujourd'hui, 60% des Afghans, soit 24 millions de personnes, vivent dans l'insécurité alimentaire. Selon l'ONU, c'est une des pires crises humanitaires au monde.
Kaboul, Inès Gilles, pour Radio Vatican.
À la une de l'actualité, Vatican, ce jeudi, cette audience du pape François avec le nouveau premier ministre du Liban, Najib Mikati. Cet homme politique de confession sunnite a été rappelé au poste de premier ministre le 10 septembre dernier après une longue période de paralysie politique. De nombreux Libanais espèrent une visite du pape François sur place pour apaiser la situation. Le pape François qui a autorisé ce matin la publication de plusieurs décrets de la Congrégation pour les causes des saints. L'un d'entre eux reconnaît le martyre de 5 prêtres français assassinés en 1871 par les communards. Leur béatification devrait donc être célébrée à Paris dans les prochains mois. Et puis cette visite remarquée du président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux à Moscou. Le cardinal Ayuso, arrivé hier dans la capitale russe, a rencontré le métropolite Hilarion et des représentants de la communauté musulmane. Russe. Aujourd'hui, le cardinal espagnol a rencontré le ministre adjoint des Affaires étrangères pour le Moyen-Orient et les pays africains, ainsi que le représentant spécial russe pour la coopération avec les États islamiques. Le pays de Dante et celui de Molière s'apprêtent à sceller leur amitié. Le président français Emmanuel Macron est arrivé aujourd'hui à Rome. Demain matin, il doit retrouver le président du Conseil, Mario Draghi, pour paraffer le traité dit du Quirinal, du nom du palais de la présidence italienne. Après un long hiver diplomatique, Paris et Rome actent donc leur coopération renforcée dans un contexte européen instable entre Brexit et transition politique en Allemagne. Cette relation franco-italienne est complexe, ambiguë. Elle a en tout cas survécu à de nombreux malentendus. Jean-Yves Frétinier, historien de l'Italie contemporaine, revient sur les dernières décennies de relations entre les deux pays, à commencer par celle de l'après-guerre.
Il y a des hauts et des bas dans ces relations dans les années 50 et dans les années 60. Il y a d'abord des visites diplomatiques. Le président Gronchi, italien, fait une visite d'État en 56 en France. C'est pas anodin puisque la dernière visite remontait à 1903. Ça faisait 53 ans sans rencontre. Mais il y a des pommes de discorde entre les pays. Il y a d'abord le problème de la décolonisation. Les Italiens ont une politique qui est un mélange de volonté de retrouver une certaine puissance en Méditerranée et de critique de la colonisation, de chercher aussi des débouchés en matière énergétique. Et la France est vue un peu comme un obstacle dans ça. Il y a par exemple un moment de, un peu de tension au moment de la crise de Suez où l'Italie est partagée entre soutien européen et soutien à Nasser. La guerre d'Algérie aussi joue une part importante dans ça, puisque une partie quand même de la classe politique italienne prend fait et cause pour l'indépendance de l'Algérie, jouant, si vous voulez, aussi une carte d'avoir des matières premières, du pétrole et du gaz. Pour ces raisons, c'est tout de même difficile qu'il y ait un accord aussi fort qu'il pouvait y avoir avec l'Allemagne. Et puis enfin, une divergence en matière européenne. Il y a un fédéralisme italien beaucoup plus fort, alors que France Gaulienne est en faveur du confédéralisme. Et évidemment, il y a une vraie rupture avec François Mitterrand, donc qui a lui un amoureux, c'est très clair, de l'Italie. C'est la mise en place de ces sommets bilatéraux de chaque année. On peut parler en tous les cas d'une embellie très très marquée.
Comment expliquez-vous ce paradoxe d'un faible tandem diplomatique, géopolitique, au regard d'une proximité culturelle, économique indéniable ?
Alors c'est vrai qu'il y a un écart. Je crois que c'est toute la difficulté de ces deux sœurs, les fameuses deux sœurs latines. Le général de Gaulle, d'ailleurs, il n'aimait pas cette expression parce qu'il disait, je préférais dire deux cousines, parce qu'entre les sœurs, qui est la sœur aînée ? Bon, l'Italie se réclame un peu comme la sœur aînée parce qu'elle est le berceau, d'une certaine manière, d'une partie de la civilisation européenne. Et la France se considère de son côté, elle aussi, comme la sœur aînée parce que puissance plus importante, diplomatiquement, militairement. Et au fond, il y peut y avoir arrogance, mépris, quelquefois des surinterprétations dans un sens et dans l'autre entre ces deux pays, ce qui explique qu'il n'y a jamais eu de grave crise diplomatique, mais il n'y a pas eu véritablement de véritable politique moteur. Et là, peut-être qu'on vit un tournant avec le traité du Quirinal.
L'historien Jean-Yves Frétinier était ce jeudi l'invité de Radio Vatican. Ainsi s'achève cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain matin 8h30 en direct de Rome. Excellente soirée.